Radio Judaïka Strasbourg, partenaire des 100 ans des EI. Retrouvez dès à présent Sommet, en direct de nos studios à Cussac-Formédoc.
Bonjour à tous, bonjour à tous. On est dans le premier enregistrement de Sommet aujourd'hui. Alors, Sommet, c'est un format de conférence qui se déroule sur le camp du 100e anniversaire des EI, puisqu'on rappelle que Radio Judaïka est présent pour couvrir l'événement et gère le centre de presse du 100e anniversaire. Et ce premier Sommet, ce premier échange se fait sur le thème de l'entrepreneuriat. Et on reçoit pour ça trois éminents représentants de l'entreprise et bien évidemment anciens ou EI encore en activité. Et donc on a trois invités. Je partage cette émission, j'ai le plaisir de la partager avec mon comparse de toujours, Dan Leclerc, vice-président de la radio. Bonjour Dan. Alors est-ce que tu peux nous présenter les trois intervenants sur le thème de l'entrepreneuriat ?
Avec un immense plaisir. On va commencer parce que scout toujours, mais également un peu de correction féminine, bien évidemment, dans ce monde de brut.
Parce
que
ça commence par les filles. Hein.
Éclaireur Israélite de France, c'est pas le contraire. On commence par les filles. Donc j'ai le plaisir de vous annoncer Eva Bromberg, fondatrice de Cœur Paris. À seulement 19 ans, elle fait de la broderie personnalisable. J'imagine que tous les écussons que nous portons sont portés par les EI. Si ce n'est pas le cas, de toute façon, on va rectifier ça, bien évidemment. Salut Eva et ravi de t'avoir à nos côtés. Tu es bien entouré parce que à ta gauche, il y a Jeff, dit Jean-François Fruchman, ancien permanent du Centre National des EI, nom de code, nom de totem, Chewbacca. Je vous laisserai, il va tout de suite se présenter. Merci beaucoup Jean-François. Tout à l'heure. Et à ta droite, chère Eva, il y a Denis Saada. Tout jeune, 40 ans comme nous, responsable du syndicat d'Alliance des mobilités, président de l'entreprise Betterway, de la tech dans la mobilité. Nous avons le plaisir de vous recevoir tous les trois pour parler, pour faire des liens entre l'entrepreneuriat, les EI et la vie quotidienne. Bienvenue à tous les trois.
Merci. Alors, on a commencé par Eva, donc on va poursuivre avec Eva pour la présentation de qui vous êtes et de vos activités. Eva, vous êtes la plus jeune de nous tous autour de ce plateau. Vous êtes une ancienne EI. Vous étiez sur quel groupe local ?
J'étais à Schéma Israël, place des Vosges, dans le 4e à Paris.
D'accord. Tu as entendu qu'il y avait une petite hésitation, hein, ça, je ne sais pas.
Hein. J'ai hésité à dire je suis ou j'étais.
Voilà, c'était une hésitation. Mais alors, ça serait ma première question, si tu permets. On a dit qu'on se tutoyait. Hein. Sur le plateau des EI, on ne peut pas faire autrement que de se vous. C'est pas possible, ça. Ça ne marche pas, même à la radio. Je suis où j'étais. C'est une excellente réflexion parce que finalement, on est à vie EI. Hein.
Exactement.
On est à vie EI et donc cette hésitation se légitime par-delà. Qu'est-ce qui a fait que tu as basculé dans l'entrepreneuriat et qu'est-ce que les EI t'ont appris pour aujourd'hui vivre ta vie d'entrepreneur, d'entrepreneuse, pardon?
Alors, c'est une très longue histoire parce que moi
il
j'ai
faut faire court ici.
Et je sais. moi j'ai commencé l'entrepreneuriat très jeune puisque j'avais 19 ans, j'ai monté une marque de vêtements donc qui s'appelle Cœur Paris. À l'origine, je brodais dans ma chambre et j'étais encore animatrice aux EI quand j'ai commencé. Et ça, de fil en aiguille, c'est allé assez rapidement et la petite entreprise que je faisais dans ma chambre est devenue une entreprise avec des salariés, etc. Les EI m'ont apporté énormément puisque donc moi j'ai fait des études mais assez courtes puisque quand on démarre l'entrepreneur à 19 ans, on n'a pas eu l'occasion de faire des tonnes et des tonnes de choses. En revanche, les EI m'ont apporté beaucoup, que ce soit en termes de management, en termes de relations avec son équipe, etc. Quand on est adec, quand on est animateur, etc. Donc ça m'a énormément apporté. Ça m'a également apporté beaucoup de choses en termes de recrutement. J'ai pu travailler avec des prestataires, évidemment des EI, etc.
Merci beaucoup, Eva. Alors, tu parlais de recrutement, ça fait un lien tout trouvé pour Jeff, dit Chewbacca. Tu as été pendant longtemps, Jeff, quelques années en tout cas, un permanent des EI, et tu es passé justement dans le recrutement. C'est ta mission entrepreneuriale du jour.
C'est ma mission entrepreneuriale du jour.
Du moment, en tout cas.
Du moment, en tout cas. J'en ai eu d'autres par le passé, mais en tout cas, du moment. Et effectivement, ce qui est assez, c'est marrant de constater, c'est que on va retrouver beaucoup des caractéristiques qu'on attend d'un entrepreneur, dans le profil des anciens EI, entre autres des anciens responsables, parce que beaucoup des choses qu'on n'apprend pas en fait à l'école, en école de commerce, en école d'ingénieur, ou juste parce qu'on n'a pas eu le temps
tu
de
faire les deux, commerce et ingénieur.
J'ai fait des écoles, non, commerce seulement.
Il est trop fort, c'est garçon. Un EI, c'est normal.
J'ai fait médecine, comme dirait mon beau-père, mais à part ça, ça va, j'ai fait des études de commerce.
On garde quand même.
Et c'est vrai qu'on va, apprendre en fait beaucoup de choses qu'on n'apprend pas à l'école de commerce, et même dans ses premières années
de la vie.
De vie professionnelle. Par exemple, la gestion des gens et la gestion de la galère. En fait, dans quel moment de sa vie, en fait, à 21 ans, on peut se voir confier 15, 20 personnes sous sa responsabilité directe, à encadrer pendant 3 semaines en continu, peut se voir aussi être confronté à toutes les réalités d'un camp I, mais je pense qu'on en reparlera plus tard, qui en fait nous apprennent à réagir calmement, réagir posément, de savoir qu'en fait on peut jamais tout anticiper et il y a des réalités auxquelles il va falloir faire face. Et ça, c'est vachement utile en fait pour les entrepreneurs, et c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup d'anciens AI qui sont aujourd'hui des entrepreneurs à succès, comme les deux que j'ai à côté de moi.
Eh ben justement, nous avons une relais tout trouvé, Denis Saada, entrepreneur à succès, fondateur de la société Betterway dans les mobilités, avec des clients partout. C'était essentiellement national, également européen.
Alors oui, on est présent partout en France, Betterway. Donc c'est une, juste pour présenter pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une entreprise qui fait une carte de mobilité à destination des salariés, un petit peu comme un ticket restaurant, mais pour les transports. Donc concrètement, l'entreprise peut payer les transports mobilité durable, comme par exemple du vélo ou de la trottinette ou du transport en commun. Pour ses salariés.
Le ticket restaurant de la mobilité.
Exactement, ticket restaurant de la mobilité.
Et dans les mobilités mobiles, on a aussi les transports publics qui sont vertueux.
Transport public, vélo, covoiturage, autopartage, bref, tout ce qui va permettre, en général, de laisser sa voiture à la maison et de pouvoir se déplacer de manière vertueuse. C'est souvent le cas à Strasbourg, puisque vous êtes une ville qui est très en avance.
Particulièrement
en avance sur le vélo. Et je crois qu'il y a pas mal de débats sur les tramways actuellement à Strasbourg.
Absolument.
On va pas faire de politique ici.
Non.
Je crois qu'on va plutôt parler d'entrepreneuriat et des
AI. L'intérêt pour le salarié, c'est d'avoir une participation sur ses frais de déplacement. Et pour l'entreprise, c'est d'arriver à pouvoir savoir combien ça lui coûte, combien elle participe. C'est ça, en fait, hein. C'est une automatisation des prises en charge.
Tout à fait. Côté salarié, c'est la liberté. C'est-à-dire, le salarié va pouvoir librement choisir son mode de transport, s'il préfère du vélo, du transport en commun, du covoiturage ou un peu de tout d'ailleurs, parce que avec nos rythmes aujourd'hui, le télétravail, etc., certains vont faire du vélo le lundi, mardi et puis prendre les transports en commun le mercredi et rester à la maison le jeudi. Et puis pour l'entreprise, c'est de la gestion, de la simplification de la gestion et le fait de contrôler aussi que l'argent qu'il donne aux salariés est dépensé à bon escient dans du vélo et pas pour autre chose.
Je rappelle que cette émission est sponsorisée par...
Exactement. On se voit juste après pour le...
Pour le ticket.
Petite question, pardon. On switch sur Eva parce que du coup, tu dis qu'à 19 ans, tu étais chez toi, tu faisais tes broderies. Ça t'est venu comment? La passion, tu faisais déjà de la broderie à titre perso. Tu t'es dit, putain, c'est super, je vais en faire mon activité plus tard. Ça t'est venu comment?
Alors moi, c'est ma grand-mère qui m'a appris à broder quand j'étais un petit peu plus jeune. Parce que j'étais une hyperactive et que c'est le moyen qu'elle avait trouvé un petit peu de canaliser mon énergie. Et j'ai toujours un petit peu brodé et au fur et à mesure j'ai commencé un petit peu plus broder, je brodais pour mes copines, etc. Et voilà. Et aujourd'hui on a lancé il y a maintenant deux ans on a lancé une école de broderie avec ma marque qui s'appelle donc la Cœur Academy. Et justement, à l'origine, on faisait des vêtements brodés qu'on brodait nous-mêmes. Donc moi, j'ai formé beaucoup de brodeuses, parce que au début de la marque, j'ai eu du mal à recruter justement des personnes, parce que c'est un métier qui est très difficilement recrutable. Et aujourd'hui, on a une école. Voilà.
Finalement, on fait le même métier, hein. On brode nous aussi. Hein.
Exactement.
C'est pas de la même manière.
Tu as Jean-François à ta droite, hein, qui pourra t'aider pour le recrutement.
Exactement.
Alors Jean-François, le recrutement, on a parlé de ton activité au sens large. Tu as un secteur d'activité particulier de prédilection dans lequel tu recrutes?
Je recrute plutôt dans la tech, donc en gros tous les profils.
On n'a pas donné le nom de ton entreprise, pardon. Est-ce que tu peux...
Alors, je travaille pour une entreprise franco-israélienne qui s'appelle Black Belt.
Black Belt.
Oui, qui a développé un outil d'intelligence artificielle qui permet en fait de faciliter le travail des recruteurs, en leur permettant d'aller beaucoup plus vite sur les tâches qui sont très longues, pas forcément entrer dans les détails qui sont pas passionnants, puis surtout les détails technologiques que je maîtrise pas. Et nous, effectivement, on recrute aujourd'hui beaucoup tout ce qui va être dans la tech, mais tous les métiers un petit peu plus commerciaux, marketing, digital, métiers de direction, etc. de ces entreprises.
Ça, le monde du recrutement a beaucoup changé. Aujourd'hui, les gens, pour la plupart du temps, ne passent plus par des cabinets de recrutement. Ça se fait en ligne, etc. On a essayé d'évoluer.
Non, l'activité de cabinet de recrutement existe toujours. Par contre, elle a beaucoup changé parce qu'aujourd'hui, en fait, l'information est beaucoup plus accessible. Il y a 20 ans, 30 ans, avant l'émergence de LinkedIn et des plateformes de réseaux sociaux, identifier des gens, identifier des candidats, c'était une tâche très compliquée. Et donc, en fait, le métier, c'était celui qui avait le plus gros listing de CV. Et donc, en gros, si vous aviez 100 000 listings de CV et que votre concurrent en avait 50 000, vous aviez deux fois plus de chances d'avoir la bonne personne dedans. aujourd'hui, on a tous accès à la même information qui est en fait le profil LinkedIn des gens, puisque une énorme partie des cadres aujourd'hui en France sont sur LinkedIn et c'est ce qu'on va principalement recruter par des cabinets de recrutement. Et du coup, aujourd'hui, bah, pour que l'activité de recrutement existe, en fait, il faut faire des choses différemment. Il faut être soit capable d'aller plus vite grâce à la technologie, soit être plus pertinent pour identifier les choses qui sont peut-être moins facilement lisibles ou qu'on peut percevoir sur un profil, et puis avoir une vraie expertise sur les métiers sur lesquels on recrute. Et donc, c'est vrai que ce qui est un peu en train de disparaître, c'est les grands généralistes du recrutement qui, le matin, font un poste de ressources humaines dans la banque et l'après-midi, un directeur R&D dans l'agroalimentaire, où en fait, on réalise que non, on a besoin d'avoir vraiment des experts qui connaissent chaque branche d'activité, chaque réalité, parfois régionale, locale ou autre.
D'accord. Vous êtes tous des anciens EI. On va quitter la partie entrepreneuriale pour parler du lien en fait aux EI. Vous l'avez dit, les EI, ça vous a... Je crois que le premier mot qui nous vient tous à l'esprit, c'est la débrouillardise. Finalement, on apprend à se débrouiller. On a des galères dans les camps. On apprend à se débrouiller, à bricoler. Voilà. On apprend aussi parfois à traverser des conditions difficiles. Les explos, notamment quand on est jeune, à se retrouver sur la route pendant 3 jours à faire 20 km par jour, pour ceux qui le font et qui gruchent pas.
En toute sécurité, bien sûr.
Voilà, ça apprend aussi à se débrouiller, à se dépasser aussi parce qu'on est jeune et que ça fait beaucoup. Les EI dans votre vie d'hier, d'aujourd'hui et de demain, ça représente quoi? Alors, on est plus ou moins âgés tous ici autour de la table. Ça sera plus difficile pour Eva. Je pense pas qu'elle ait encore démarré sa vie de famille avec des enfants et autres. Mais pour nous qui sommes plus anciens, est-ce que vos enfants ont pris la suite? Est-ce que ce sont des valeurs que vous transmettez comme une continuité? Comment ça s'articule? On va commencer par Denis.
Alors, je vais l'apprendre. D'abord, il y a un dicton qu'on dit aux EI, c'est « ayez un jour, ayez toujours ». C'est à peu près vrai. On parlait de débrouillardise. Je crois qu'il y a une autre dimension qui est super importante, qui est le fait qu'on connaît plein de copains. C'est-à-dire, on est arrivé ici au 100e anniversaire. Je crois chacun d'entre nous autour de la table, on a dit bonjour à 500 000 personnes, sans rigoler, hein. Et ce qui fait que, en fait, dans l'entrepreneuriat et dans la vie professionnelle, c'est quelque chose qui aide énormément. J'en ai parlé à mon associé qui n'est pas juif et qui n'est pas des EI. Je lui dis, mais écoute, au lieu d'envoyer, tes enfants à HEC ou à Harvard, envoie-les aux EI, ça leur fera un bien meilleur réseau pour commencer dans la vie. Et c'est partiellement vrai. Moi, par exemple, chez Betterway, mon premier client, qui est ici, ça a été un EI. Parce qu'en fait, dès le début, il m'a dit, écoute, dès que ton produit est prêt, vas-y, envoie, je te signe le premier devis, il y a pas de problème, je vais t'aider, etc., etc. En fait, il y a en effet, je suis d'accord avec toi, il y a en effet cet aspect débrouillardise, responsabilité, et le fait qu'on prenne de plus en plus des responsabilités aux EI, c'est un peu le modèle, hein. Quand on devient éclé, on devient ZADEC, donc responsable d'équipe, puis après on devient responsable animateur, puis après on devient responsable de branche, puis chef de camp, etc. Donc de plus en plus de responsabilités. Ensuite, on devient un peu comme JF, c'est-à-dire on est responsable national et on devient connu du monde entier. Mais le vrai, finalement, ce qui a énormément aidé dans les EI, c'est le réseau et c'est les copains et c'est le fait de connaître énormément de monde et de s'ouvrir au monde aussi.
Eva, ça t'a aidé les EI aussi pour démarrer ton activité ou pour...
Ouais, totalement. Dès le début, dès le démarrage, j'ai eu des commandes vu qu'on faisait de la personnalisation de groupes locaux, mais aussi forcément, comme disait très justement, en fait, moi je considère que les EI c'est un peu comme on dit tous l'école de la vie et que on a tout appris, on a rencontré beaucoup de gens dans le cadre lorsqu'on crée une marque, on a besoin d'avoir une communauté. Avec les EI, forcément j'ai eu la chance de bénéficier de toute l'aide de la communauté des EI. Donc oui, non, vraiment ça m'a énormément aidé.
D'accord.
Puis c'est quand on monte une start-up ou une entreprise, on se dit que au début c'est les friends and family. On a la chance d'avoir énormément de friends aux EI, donc énormément d'amis. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs EI qui ont bien commencé et qui ont bien réussi à lancer leur activité professionnelle.
Bon, je vois le technicien qui fait la tête. Là, on a des bruits dans tous les sens. Alors c'est tout le charme du direct. On a des camions de chantier qui passent. Enfin voilà. Il faut savoir que le camp ici bouge beaucoup. Il y a énormément de gens en mouvement. On attend ici sur le terrain de toutes les nationalités puis de tous les âges parce qu'on attend sur le terrain 8000 personnes dans la journée. Donc les petits sont déjà arrivés, ce qu'on appelle les bâtisseurs. Les éclés vont arriver, je crois, aussi d'ici peu. Et puis évidemment, tous les anciens. Donc le camp est en ébullition, on a des bruits dans tous les sens. Ça fait partie du direct, on en a l'habitude.
Jeff, pour continuer encore avec cette trilogie entrepreneuriale, toi tu as fait le chemin presque inverse, tu as continué dans les EI. C'est après les EI que tu as sauté le pas de l'entrepreneuriat. Est-ce que ça t'a aidé, poussé? Comment ça t'a structuré? Et surtout, qu'est-ce qui t'a décidé ou qu'a été le déclencheur?
Moi, je crois que c'est vraiment un des déclencheurs, c'est pour continuer un peu sur ce que disent mes amis panéliste, c'est le. Moi, j'ai été content de retrouver en fait le rôle de chef de camp dans la vraie vie de tous les jours. Et je crois qu'il y a une vraie presque éthique du management, éthique de la gestion de projet en fait quand on a été aux EI, en fait. On a tous pris l'habitude de transmettre, on a aimé transmettre, on a aimé accompagner, aimé former, parfois aimé diriger, prendre des décisions et retrouver ça en fait dans sa vie de tous les jours. Retrouver l'occasion en fait de former des jeunes, de les accompagner, de les faire monter en compétences, de leur permettre de développer leur projet, de prendre des responsabilités eux-mêmes, de devenir manager, en gros de continuer à transmettre au quotidien et aussi de le faire d'une manière parfois un peu hi, c'est-à-dire que moi je suis toujours aussi heureux d'animer mes réunions comme je le faisais parfois aux EI avec des blagues, avec un peu de détente, de pouvoir en fait avoir un peu un mélange parfois de la réunion, vie perso dans la vie de tous les jours en fait aux EI et de pas être gêné en fait quand quelqu'un vient avec un problème de la vie de tous les jours, parce que le monde de l'entreprise, en fait, on arrive à 9h, on doit laisser ses problèmes dans le vestiaire et puis les reprendre à 18h, en fait, n'existe plus. Aujourd'hui, tout ça se mélange. Et je pense que les EI nous ont appris, en fait, à gérer ce mélange permanent, en fait, de vie pro, vie perso, projet, envie personnelle et envie collective.
Finalement, on se reconnaît tous l'un avec l'autre, et ça, j'imagine que ça vous est déjà arrivé d'arriver chez des gens, dans des boîtes, et puis de sentir qu'il y a un truc qui peut-être fitter, et puis au détour d'une conversation de dire mais toi vous étiez pas au scout, et puis tout à coup c'est le tu et le quand et le quoi, et puis ça fait alors pour certains d'entre nous 20, 25, 30 ans, pour Eva peut-être un petit peu moins de temps, mais ces retrouvailles sont assez incroyables. Nous arrivons presque à la fin de cette émission. Qu'est-ce que vous auriez envie de donner comme conseil aux jeunes, aux moins jeunes, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, et surtout, qu'est-ce qu'il faut prendre pendant qu'ils sont aux EI pour pouvoir en faire bien le réseau de sa vie?
Moi, c'est de leur dire de rester le plus longtemps possible aux EI, de prendre beaucoup de responsabilités aux EI, de faire beaucoup de choses aux EI, parce que ce qu'ils vont apprendre, et en fait l'ampleur de ce qu'ils vont pouvoir gérer, ils vont parfois mettre 10 ans à le retrouver en entreprise. Je pense que les gens qui ont aujourd'hui contribué à l'organisation du centième, qui ont 20-25 ans, qui sont en train de finir leurs études, quand est-ce qu'ils vont retrouver la responsabilité d'être quasiment numéro 1, 2 ou 3 d'un événement de 8000 personnes avec le budget qu'il a? Ça n'arrivera peut-être même pas dans leur carrière. Qui vraiment manage 25-30 personnes parfois au quotidien sur une année, etc. Donc en gros, restez aux EI longtemps, prenez des projets aux EI, impliquez-vous, et je pense que derrière, oui, ça facilitera beaucoup, beaucoup votre parcours managérial en tant qu'entrepreneur ou même en tant que juste que dirigeant au sein de votre entreprise.
Merci Jeff. Allez, Denis, ensuite on terminera par la douce voix de Eva.
Écoute, moi je pense que c'est des choses qui arrivent de manière assez naturelle. C'est-à-dire, ma conviction, c'est que tu es entrepreneur comme tu es dans la vie de tous les jours. Et concrètement, les EI, c'est ça qui est formidable, c'est que... c'est une super école, mais sauf que c'est une école où tu te marres et où tu profites. Donc en fait, c'est l'école de la vie comme tu l'as dit tout à l'heure. Mais en fait, ça s'est pas fait. Je l'ai pas fait comme une contrainte de rester aux EI longtemps et de me dire oh là là, il faut absolument que je reste parce que c'est un investissement pour l'avenir. Non, je l'ai fait au contraire parce que j'ai été dégoûté quand je suis parti. Et bon, bah, à un moment, les EI, c'est un mouvement de jeunesse. Donc en fait, à un moment, quand vous devenez un peu moins jeune, il faut laisser la place et surtout, il faut ne plus rien dire parce que le mouvement appartient aux actifs. Mais en tout cas, c'est ça qui est extraordinaire finalement et qui fait le lien entre entrepreneuriat et EI. C'est cette capacité de se dépasser, de s'engager, d'aller plus loin, d'être aussi un peu à côté de la plaque et de penser un peu différemment.
Savoir gérer les galères, etc.
Oui, savoir gérer les galères, on l'a dit. Mais savoir penser différemment, ça aussi, c'est quelque chose qu'on t'apprend aux EI, parce qu'en fait, t'essayes aussi d'être original, de marquer ton temps, de marquer ton époque. C'est un peu une culture EI, ça. Et donc, ça aussi, c'est un marqueur de l'entrepreneur.
Merci Denis. Allez, le mot de la fin pour Eva, notre jeune entrepreneuse de 20 ans maintenant.
Je pense que je rejoins totalement ce qui a été dit. Et je pense que c'est une chance énorme, comme tu le disais tout à l'heure. C'est vraiment une école, et pour des personnes qui n'ont pas forcément fait des grandes écoles, c'est une énorme chance d'avoir fait les EI. Je pense qu'on a dit beaucoup beaucoup de choses. En tout cas, profiter. Faut pas se lancer pour se lancer. Aujourd'hui, on est dans une période qui est pas forcément la plus facile. On voit qu'il y a beaucoup de boîtes qui sont en train de fermer, etc. En tout cas, c'est une chance énorme et il faut profiter de
Merci à tous les trois.
Comme dit tout à l'heure, Denis, et un jour, et toujours.
Et toujours, ouais, absolument. En tous les cas, vos aventures sont passionnantes. On a réussi, je crois bien, à faire le lien entre ce que vous avez vécu, ce que vous avez pris, et ce que vous avez donné aussi aux EI, et puis aujourd'hui, votre continuité. Je crois qu'il y a 20% des étudiants en grandes écoles qui arrêtent avant la fin parce qu'ils ont monté leur boîte et que ça marche trop bien et qu'ils n'y arrivent plus. J'ai le sentiment, en vous écoutant, qu'aux EI, c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire que je pense qu'on a une capacité à former des gens qui ont envie de devenir entrepreneurs. Là où je rejoins Eva, c'est que tout le monde ne deviendra pas entrepreneur. Il faut avoir une passion, il faut avoir une envie, il faut aussi être formaté comme ça. Mais en tous les cas, quand on l'est, le parcours EI aide beaucoup. Et moi qui ai fait aussi de l'entrepreneuriat, je l'ai évidemment, je me suis retrouvé dans ce que vous avez dit. Il y a énormément de choses qu'on reprend sans même s'en rendre compte. Le côté convivial, arriver à mettre de la convivialité, l'écoute des gens dans l'équipe, tout ça, ça paraît naturel, mais non. Et on s'en rend compte en parlant avec d'autres amis qui sont entrepreneurs. C'est pas forcément naturel. Et tout ce qu'on apprend, évidemment, dans le cadre de la débrouillardise, ça sert aux EI, savoir le couteau suisse. Voilà, quand on est en entreprise, on a 1000 choses à voir. Il y a des choses qui marchent, d'autres qui marchent moins bien. Avoir la capacité de s'adapter et puis d'y répondre, c'est très important. Merci beaucoup de votre témoignage. Je pense que j'espère qu'il sera très inspirant pour celles et ceux qui vous écoutent et qui vont continuer de vous écouter puisque vous avez une conférence Summit derrière. On remercie les gens de Summit d'avoir accepté de mutualiser avec nous ces témoignages. On vous souhaite en tous les cas un bon centième. On nous souhaite un bon centième. Profitez bien
et le succès.
Voilà, et beaucoup de succès dans votre entreprise, ouais, bien sûr.
Merci à tous les deux.
Merci beaucoup. Merci.
À très bientôt. Merci beaucoup, Denis, Jean-François et Eva Bromberg avec nous au micro du Radio Judaïque à Strasbourg.
Radio Judaïque à Strasbourg vous a présenté une émission spéciale 100 ans des EI, à retrouver en podcast sur notre site radiojudaïquastrasbourg.fr.